Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du vendredi 13 mai 2022. Avec vous, Eric Manirakiza.
Et Yacouba Ouedraogo. Voici d'abord le sommaire.
Au Niger, plainte d'ONG après des révélations sur près de 63 milliards de francs CFA d'eau malversation.
En Guinée-Bissau, le président Ambalo limoge le ministre de l'économie.
En Tunisie, le président Saïd contre la présence d'observateurs étrangers aux élections.
Le G7 doit protéger les pays pauvres des effets de la guerre en Ukraine, estime la ministre allemande des Affaires étrangères.
Pénurie de lait pour bébés aux États-Unis, la Maison Blanche annonce des mesures pour s'attaquer à la situation.
Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Niger, des organisations de la société civile actives dans la lutte contre la corruption ont déposé cette semaine une plainte à dénonciation devant un juge pour des malversations de plus de 60 milliards de francs CFA. Ces malversations ont été révélées dans un rapport de la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques du Niger, la Cour des comptes. Les précisions de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Surfacturation, fausse mise en concurrence, contrat passé par entente directe, absence de sincérité et de régularité dans la production des comptes et des déclarations de bien des membres du gouvernement, dysfonctionnement dans la gestion des collectivités territoriales et des sociétés publiques, existence de soldes anormaux, dépenses sans base légale, dysfonctionnement et irrégularité dans la conduite des opérations de l'État. Tels sont les principaux points soulevés par la Cour des comptes des irrégularités qui ont fait perdre à l'État plus de 60 milliards de francs CFA et qui ont justifié cette dénonciation des ONG auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Adamu Oumarou, du réseau national de lutte contre la corruption.
En tant qu'acteur de la société civile, il s'agit pour nous de pouvoir non seulement après cette dénonciation, de pouvoir enclencher d'autres actions qui vont accompagner, que ce soit au niveau sous-régional et au niveau international.
Le rapport accablant de 300 pages a été remis au président de la République Mohamed Bazoum qui dit avoir comme priorité la lutte contre la corruption, une lutte pour laquelle il a notamment demandé l'aide de la société civile. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, le président Oumarou Sissoko Ambalo a limogé hier son ministre de l'économie. Victor Madiga était en poste depuis 2021. Il a été remplacé pour garantir le fonctionnement des institutions et par convenance politique, indique un décret présidentiel. Sans plus d'explications, M. Madiga avait récemment dénoncé l'implication, selon lui, du ministère des Finances dans des dossiers relevant de son attribution. Son poste a été provisoirement confié au Premier ministre Nuno Gomes Nabiam.
En Tunisie, le président Kais Saied s'est dit hostile à la présence d'observateurs étrangers au prochain scrutin prévu dans son pays lors de la prestation de serment de nouveaux membres de l'autorité électorale qu'il a nommé Le Point avec Lionel Runanira Gahima.
Le président Kais Saied a déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas un État sous occupation qu'on nous envoie des observateurs ». C'était hier, lors de la cérémonie de prestation des serments au palais présidentiel de nouveaux membres de l'instance supérieure, indépendante pour les élections. Après des mois de blocage, M. Saied, élu fin 2019, s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet en limogeant le Premier ministre et en suspendant le Parlement dominé par le parti d'inspiration islamiste, Ennahda, avant de le dissoudre en mars. Dans une feuille de route censée sortir le pays de la crise politique, il a prévu un référendum le 25 juillet, avant des législatives le 17 décembre. Il s'est aussi octroyé le droit de nommer 3 des 7 membres de l'ISI. Le 9 mai, il a nommé Farouk Bouasker, ancien membre de l'ISI, président de cette instance en remplacement de Nabil Bafoun, un critique de son coup de force. Les opposants de M. Saïd l'accusent de vouloir mettre en place une instance électorale docile avant le référendum et les législatives. Les élections qui ont eu lieu en Tunisie depuis la révolution de 2011 ayant mis fin à la dictature ont été supervisées par des ONG locales et internationales.
Les parlementaires somaliens doivent élire dimanche un nouveau président lors d'un scrutin attendu depuis plus d'un an. dans ce pays confronté à l'insurrection des islamistes radicaux Shabab et à une sécheresse historique. Pas moins de 39 candidatures, un record, ont été enregistrées pour l'élection qui se tiendra sous haute sécurité dans un hangar de l'aéroport de la capitale Mogadiscio. Le chef de l'État sortant, Mohamed Abdoulaye Mohamed Diffarmadjo, est candidat à sa réélection.
Les pays les plus défavorisés doivent être protégés des répercussions de la guerre en Ukraine, a estimé hier la ministre allemande des Affaires étrangères à l'ouverture d'une réunion du G7 dans le nord de l'Allemagne. Le point avec Claire Morégibourg.
La déclaration a été faite pour donner le coup d'envoi de la réunion du G7 qui dure jusqu'à demain samedi. En tant que pays les plus industrialisés, nous avons une responsabilité particulière, a estimé Annalena Baerbock à Wengels sur les bords de la mer Baltique. Les ministres vont discuter des moyens de débloquer le blocus des céréales. Près de 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans le port ukrainien d'Odessa, qui correspondent à des denrées alimentaires pour 1 million de personnes dans le monde, a déclaré la chef de la diplomatie allemande, ajoutant que les pays africains et du Moyen-Orient en ont besoin d'urgence. L'invasion de l'Ukraine, puis les sanctions imposées à Moscou, ont durement touché les pays africains, dont beaucoup dépendaient pour se nourrir de la Russie et l'Ukraine, deux exportateurs de blé, maïs, colza et huile de tournesol. Le G7 rassemble les 7 pays les plus riches de la planète, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, il y a une grave pénurie de lait pour bébés. L'opposition républicaine a fait un tir groupé sur Joe Biden. La Maison-Blanche promet des mesures pour faire face à la situation. Selon le fournisseur de données DataAssembly, le taux de rupture de stock de préparation de lait pour nourrissons a atteint 43% à la fin de la semaine dernière. Jacques Aristide.
L'exécutif américain n'a pas précisé quand ni sous quelle forme il va annoncer ses actions. Le président américain Joe Biden va s'entretenir avec des représentants du commerce du détail et des producteurs de lait pour bébés, a indiqué la Maison-Blanche. Elise Stefanik, républicaine de la Chambre des représentants, affirme avoir contacté l'Agence américaine du médicament dès février dernier, ajoutant que Joe Biden n'a aucun plan. Le Missouri est l'un des 6 États américains où plus de la moitié du lait pour bébé est en rupture de stock, a dénoncé sa collègue Anna Wagner, parlant de jeunes mères obligées de faire du troc sur Facebook pour s'en procurer. La situation s'est dégradée le 17 février après le décès de 2 bébés. Le fabricant Abbott a annoncé le rappel volontaire dans son usine du Michigan de lait en poudre, dont Similac, utilisé par des millions de familles américaines.
Le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a entamé jeudi un second mandat. Le Sénat a validé le choix de Joe Biden par 80 voix contre 19 au moment où l'institution lutte contre l'inflation avec l'objectif de ne pas peser sur la croissance économique. La lutte contre l'inflation, qui est au plus haut depuis 40 ans, risque de peser sur la croissance économique et l'emploi aux États-Unis, a prévenu le patron de la Fed, Jerome Powell, tout juste confirmé pour un second mandat par le Sénat.
Le président Joe Biden a accueilli jeudi les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est à Washington pour afficher l'engagement des États-Unis dans cette région face aux appétits croissants de la Chine par le biais de projets concrets, mais aussi d'une initiative commerciale revisitée. Ce sommet de l'ASEAN qui s'est ouvert par un dîner avant d'autres rencontres vendredi doit permettre au président démocrate, accaparé depuis des mois par le conflit russo-ukrainien, de remettre l'accent sur sa politique asiatique.
Les Palestiniens s'apprêtent vendredi à Jérusalem à dire adieu à une de leurs journalistes vedettes, Shireen Abu Akleh, tuée d'une balle dans la tête 2 jours plus tôt en Cisjordanie occupée alors qu'elle couvrait un raid israélien. Palestinienne chrétienne âgée de 51 ans et ayant aussi la nationalité américaine, la journaliste de la chaîne Qatari Al Jazeera doit être inhumée à Jérusalem où elle a grandi après une messe à 12h en temps universel dans une église de la vieille ville. Plusieurs milliers de Palestiniens lui ont rendu hommage jeudi. L'annonce de son décès a suscité une vive émotion dans les territoires palestiniens et dans le monde arabe où ses reportages ont été suivis pendant plus de 2 décennies, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis.
Les États-Unis, justement, ont accusé jeudi l'armée russe d'avoir transféré de force en Russie plusieurs milliers d'Ukrainiens depuis le début de la guerre fin février, souvent en passant par des camps de filtration où ils sont soumis à un traitement brutal. Kiev a avancé le nombre de 1,2 million de personnes déportées par Moscou en Russie.
La Corée du Nord a annoncé vendredi son premier mort du Covid-19, précisant que le virus s'est déjà répandu à travers tout le pays et que des dizaines de milliers de personnes sont actuellement isolées et soignées. Kim Jong-un, qui est apparu pour la première fois à la télévision portant un masque, a présidé jeudi une réunion d'urgence du bureau politique de la situation épidémique. Il a ordonné des mesures de confinement pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Retrouvons Nathalie Barge dans sa minute écho. C'est sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs.
Le Conseil ghanéen du cacao commencera à distribuer gratuitement en juin 630 000 graines de café aux agriculteurs du pays. L'objectif du Ghana est de faire progresser la production nationale de café de 10 000 tonnes à 50 000 tonnes par an. Le British International Investment, institution gouvernementale britannique pour le développement, s'est associé au groupe bancaire kényan Equity Group Holdings pour financer des entreprises qui ont des projets liés au climat dans certains pays d'Afrique centrale et de l'Est. 6 milliards de dollars sont destinés à des start-up en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Le tourisme international a augmenté de 130% en janvier par rapport à la même période l'an dernier, soit 18 millions de visiteurs supplémentaires selon l'Organisation mondiale du tourisme. Il a progressé de 51% en Afrique et de 89% au Moyen-Orient, avec des chiffres toutefois encore loin d'égaler ceux d'avant la pandémie de Covid-19.
Et dans votre page des sports ce matin, Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour à tous, on commence par du football et le Real Madrid qui a corrigé la lanterne rouge levantée 6-0 hier soir en clôture de la 36e journée de Liga pour sceller la relégation de ce dernier en deuxième division grâce notamment à un Karim Benzema record qui a égalé Raoul avec 323 buts comme deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Le festival du Real au Santiago Bernabéu a commencé dès la 13e minute avec un but de Ferland Mendy servi en profondeur par Luka Modric. Puis Benzema a enchaîné avec un but de la tête à la 19e avant que Rodrigo à la 34e et Vinicius à la 45e servi par Modric n'accroissent l'écart juste avant la mi-temps. Vinicius a scellé la victoire des tout frais champions d'Espagne en deuxième période à la 68e notamment à la conclusion d'un superbe travail de Benzema puis s'est offert un triplé à la 84e minute. Un triplé fêté avec la mythique célébration de Cristiano Ronaldo. En football toujours, cette fois-ci en Angleterre, correction également en Premier League avec un doublé de Harry Kane. Tottenham, dos au mur, a battu Arsenal 3-0. Un match en retard de la 22e journée de Premier League et revient dans la course à la Ligue des Champions. Les Spurs, avec 65 points, n'ont plus qu'une longueur de retard sur Arsenal, 66 points, qui occupe la 4e place. La dernière offrant un ticket pour la C1. Et puis Messi, sportif le mieux payé, la star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a été le sportif le mieux payé au monde en 2021, avec quelque 130 millions de dollars de revenus selon le magazine Forbes, devant LeBron James et Cristiano Ronaldo. En basketball, la NBA a annoncé hier la création de deux nouvelles distinctions individuelles consistant à récompenser les meilleurs joueurs des finales de conférence en play-off, avec des trophées portant le nom de légendaire Magic Johnson à l'ouest et de Larry Bird à l'est. Magic Johnson, aujourd'hui âgé de 62 ans, reste l'un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire. Dans son sillage est celui de Karim Abdul-Jabbar. Elle est à basculer dans l'ère du Showtime version basket avec 5 titres de champion au bout. Dans les années 1980, Bird, qui a 65 ans, a lui mené les Celtics à 3 sacres durant cette même décennie, contribuant au renouveau de la NBA qui allait se prolonger ensuite avec l'avènement de Michael Jordan chez les Bulls de Chicago dans les années 1990.
C'était les sports avec Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza, de retour avec vous. Place au dossier du jour. Retour ce matin sur cette convocation du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La justice malienne veut l'entendre dans le cadre d'une enquête pour atteinte aux biens publics et autres infractions. Un juge d'instruction du pôle économique financier de Bamako l'invite donc à se présenter à son cabinet le lundi 20 juin prochain pour, je cite, « affaire le concernant ». De quelle affaire s'agit-il? Justement, Bagassikoura a posé la question à Ousmane Fati, procureur du pôle économique au tribunal de grande instance de Bamako.
Nous avons reçu une plainte en bonne et due forme contre lui et son fils. La plainte a été traitée et une information judiciaire a été ouverte contre lui. Bon, le juge, dans les investigations qu'il se propose de mener, a estimé bon de décerner, de délivrer une convocation juste pour l'entendre et avoir des explications. Et ce qu'on peut éventuellement reprocher à lui, bon, c'est le respect d'ailleurs du principe du contradictoire, c'est le respect d'ailleurs dû à la personne suspectée, c'est de lui donner l'occasion aussi de s'exprimer sur les faits allégués dans la plainte.
Beaucoup se disent qu'il ne va pas répondre.
Là, on ne va pas descendre dans les commentaires des non-professionnels. Répondre ou ne pas répondre, ça ce n'est pas la préoccupation du service judiciaire, la justice. La justice est tenue à chaque fois qu'il est saisi d'un dossier et de convoquer les personnes impliquées. Et si les personnes ne se présentent pas, ça c'est une autre dimension du traitement de la procédure et le juge tirera les conséquences des droits.
On parle d'une affaire de malversation liée à des passeports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu?
Oui. Non, c'est justement, c'est cette procédure. Nous nous sommes saisis, nous voulons voir clair, raison pour laquelle nous avons décidé de mener des investigations à travers une procédure appropriée, consécutive à la plainte déposée à notre niveau. Donc, à ce stade, le dossier est en information. Les détails que les gens veulent avoir, ça ne peut pas se faire. Ne serait-ce que pour violer le secret
de l'instruction,
de l'information, quoi. Donc, à ce stade, voilà tout ce que nous pouvons dire à propos.
Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que cette convocation peut être une conséquence des tensions entre Bamako et Paris?
Bon, je respecte l'avis de ces auteurs de ces déclarations. Et je suis professionnel, je reste conformément au dossier qui se trouve à notre niveau. Donc, je n'ai pas de commentaires à faire. Nous sommes dans un état de droit. Les gens aussi sont libres de livrer leurs commentaires. C'est aussi le respect d'un état de droit.
Ousmane Fati, procureur du pôle économique au tribunal de grande instance de Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye s'est dit prêt mardi soir à dialoguer avec les groupes rebelles burundais basés dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, si ces derniers demandent à négocier. Rosine Munezero a joint à Bruxelles Innocent Mozi, journaliste burundais en exil en Belgique.
C'est déjà une évolution, mais des fois il arrive pas à tenir des propos comme cela, comme ça avait été le cas pour les médias d'ailleurs en exil, quand il avait parlé des dialogues en disant le Conseil national de la communication d'entrer en dialogue avec les médias qui ne sont pas encore utilisés pour que les problèmes soient réglés, mais on a attendu, il ne s'est jamais rien passé, sauf qu'on a vu que c'était juste une façon de parler qui se prétend positive, mais au bout du compte, ils ont rouvert quelques radios, mais en les privant des éléments essentiels et en les contraignant aux nouvelles conditions de travail des journalistes au Burundi. Donc cette fois-ci, qui parle des aspects politiques, en soi, c'est une bonne chose, mais est-ce que ce sera réellement concrétisé? J'ai vraiment des doutes, parce que tous ces acteurs-là qui sont en exil, que ce soit les Red Tabara, que ce soit les FNL de la MEMA, tout le monde a toujours réclamé un dialogue. Donc, si ce n'est que ça, je pense que c'est une bonne chose, mais j'ai des doutes très sérieusement sur le fait que ce soit sincère.
Donc vous ne pensez pas que ce soit une occasion pour les groupes, pour ces groupes armés, de saisir la balle au bon pour un retour au pays?
Moi, je pense qu'il faut saisir la balle au bon et voir jusqu'où il est prêt à aller, de quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, il faut avoir cette semblant de main tendue tout au moins et voir s'il est vraiment sincère ou pas.
Il y a des mandats d'arrêt qui visent certains individus présumés membres de ces mouvements. Quels sont les préalables éventuels, selon vous, pour aboutir à ces négociations?
Mais vous savez, les mandats d'arrêt, ils en ont tellement distribué. Il y a au moins 7 journalistes qui sont concernés par des mandats d'arrêt, qui ont même été condamnés à la prison à perpétuité, dont moi. Il y a des activistes de la société civile, les principaux, qui sont aussi poursuivis et qui ont été condamnés à perpétuité. Il y a des acteurs politiques, etc., etc. Donc les mandats d'arrêt, les condamnations à des peines lourdes de prison, il y en a beaucoup. Et c'était peut-être une bonne chose de commencer par montrer la bonne foi en levant certains de ces mandats, en annulant certains de ces semblants de jugements qu'il y a eu. Parce qu'encore une fois, il ne faudrait pas qu'on demande aux gens de dialoguer alors qu'ils ont des mandats sur le dos. Et même s'ils n'avaient pas, même ceux qui n'ont pas de mandat sur le dos, il y a quand même un sérieux problème de sécurité pour les gens. Où est-ce que les dialogues se tiendraient, etc. Mais ça, c'est une des modalités pratiques si vraiment la volonté était sincère.
Innocent Mozi, journaliste burundais en exil à Bruxelles, en Belgique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La haute cour militaire de la République démocratique du Congo a prononcé hier à Kinshasa un acquittement et 3 condamnations au terme du procès en appel de quelques-uns des policiers fugitifs accusés dans l'assassinat 12 ans plus tôt du défenseur des droits humains Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Eddie Isango, adjoint à Kinshasa, le coordonnateur du collectif des avocats de Floribert Chebeya, maître Richard Bondo.
Les appels dont le verdict d'hier concerne les 3 prévenus qui étaient en fuite. Kenga Kenga, celui qui avait supervisé le commando qui avait assassiné les 2 défenseurs des droits de l'homme. Mugabo, celui qui a matériellement assassiné les 2. Et puis celui qui était au dispositif de sécurité qui gérait les caméras dans les installations du quartier général de la police nationale congolaise. Monsieur Mulambwe, dont les témoignages ou dont les dépositions était très décisoire pour nous permettre d'arriver à la décision qui est tombée hier.
Quelle est donc votre réaction du fait qu'on ait condamné plutôt Ngoï Kenga Kenga
et
qu'on n'ait pas limité celui qui était au-dessus de lui directement? On parle bien
le
du général.
Le chef du commando, c'est lui qui a commandé les exécutants, c'était lui, Christian Ngoï Kenga Kenga, qui n'a même pas voulu comparaître devant la cour. Il a été condamné parce qu'il était représenté par son avocat. Devant la haute cour, il n'y a pas de condamnation par contumace. Il a été condamné à la peine capitale et puis destitué de la police.
Qu'en est-il alors du général John Numbi, qui était l'inspecteur général de la police, dont dépendait directement Christian Ngoï Kenga Kenga?
Oui, John Numbi, non. Vous voyez, nous avons 2 degrés de juridiction. Ngoï Kenga Kenga et Mugabo, membre du commando qui a exécuté le double assassinat, sont des officiers inférieurs justiciables de la cour militaire au premier degré, et quand ils forment appel, ils sont justiciables de la haute cour militaire. Mais cette dernière, la haute cour militaire, c'est le juge en premier et dernier ressort des généraux, dont le général Numbi, qui est en cavale. Dès qu'on l'aura attrapé, son dossier est déjà fixé devant la cour fixera les dates d'audience pour commencer l'instruction du dossier. Voilà un peu ce que je puis vous dire, mais je suis satisfait à ce stade de la procédure.
La VSV, l'organisation que Chebeya a laissée, semble demander un nouveau procès pour que le général John Numbi, qui était le chef de Kenga Kenga, puisse comparaître. Qu'est-ce que vous en dites, vous, les avocats?
Oui, mais nous sommes d'accord parce que ce dossier est déjà envoyé en fixation devant la haute cour militaire par l'auditeur général, qui est le ministère public, ici en RDC. On attend seulement l'arrestation de John Numbi pour que le dossier démarre. C'est ce variant de procès que tout le monde a
C'était Maître Richard Bondo, coordonnateur du collectif des avocats de Floribert Tchebea.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier l'augmentation des prix des hydrocarbures, une augmentation de 100 francs CFA sur le litre de carburant. Le gouvernement pointe du doigt l'explosion des consommations frontalières car le carburant burkinabé est le moins cher dans la sous-région. Les populations estiment que la vie est déjà chère et cette augmentation va encore peser dans leurs poches. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Les Burkinabés devront ajouter désormais 100 francs CFA sur chaque litre de carburant acheté. La décision a été rendue publique hier à l'issue du Conseil des ministres. Le gouvernement dit n'avoir pas le choix que d'augmenter. Abdoulaye Tall, ministre du Commerce.
Nous sommes en moyenne, avant cette situation, en moyenne à 2 millions de litres jour. Et étant donné qu'on est moins cher que la plupart de nos voisins, les consommations frontalières ont explosé parce qu'il y a une exportation de notre carburant et donc de notre subvention vers nos voisins. Cette situation aggrave les déficits parce que si la Sonabi achète à 900 et revend à 500, ça veut dire que c'est l'État qui est censé combler 400. Et ça veut dire que chaque litre exporté frauduleusement ou par un camionneur qui a préféré faire le plein à Saint-Cancé, à Ouissa ou ailleurs avant de traverser la frontière, il y a une subvention de 400 par litre. On a le choix en tant que gouvernement de risquer la pénurie parce que la Sonabi n'arrivera pas à renouveler son stock de liquidité parce qu'elle l'achète plus cher pour revendre moins cher. Et connaissant les contraintes budgétaires, l'État n'est pas en mesure toujours de disposer du cash pour réinjecter dans la Sonabi pour lui permettre d'acquérir.
Dans les rues à Ouagadougou ce jeudi, les consommateurs ne cachent pas leur mécontentement. Trop c'est trop pour certains.
Bon, on ne peut que prendre acte, bien vrai que ce n'est pas facile, mais on ne peut que prendre acte, surtout que c'est une conjoncture internationale qui les oblige à le faire. Et je sais que ce n'est pas à leur gré également qu'ils l'ont fait.
Ce n'est pas facile, déjà que les prix dans les premières nécessités ont déjà suivi une augmentation considérable. Si l'essence aussi augmente, on ne sait pas comment on va se débrouiller.
La situation du pays même, ça ne doit pas être comme ça. Augmenter, c'est normal d'augmenter. Mais c'est trop quoi, c'est trop. Ça ne nous arrange pas. De travailler, mettre les gens, non, c'est anormal. Hein. On n'est pas d'accord avec ça même.
Mon cher ami, ce n'est pas facile. Hein. Parce que regardez aujourd'hui, le prix des céréales partout, la vie est devenue tellement serrée. Il y a la crise de la sécurité, il y a la crise alimentaire, il y a tout.
Cette augmentation est inadmissible selon la Ligue des consommateurs contactée par VOA Afrique. Pour la Ligue, le gouvernement devrait annoncer des mesures d'accompagnement en subventionnant les prix des produits de grande consommation comme l'ont fait certains pays. Tout va augmenter, c'est le consommateur qui va payer, s'indigne la Ligue des consommateurs du Burkina. Et à ce rythme, beaucoup finiront par reprendre le vélo ou simplement la marche à pied. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Fatouma Kalala Alimassi pour la production et la mise en onde de cette édition. Eric Manilakidza a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, vous pouvez nous suivre sur votre site internet voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et bon week-end à vous tous. À la prochaine.